I know how it sounds.
La sex exploratrice avec Mel Trudel.
La sex exploratrice
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Mel Trudel et Max Acas.
Bonsoir.
Bonsoir. Beau week-end, Max?
Ah, gros week-end. Beau week-end, gros week-end. Y a-tu fait de beau en fin de semaine? Non, il a mouillé. C'était de la merde. Mais ça a quand même été pas si pire que ça, puis toi?
Yes, hey, moi ça a été un week-end tranquille.
Ouais? Ah! T'as fait du cocooning?
Oui, du cocooning. On a visité de la famille avec Victo, on a refait la chambre à mon fils.
Comme dans Méchant Changement?
Ah, oui. Ben, quasiment. quasiment.
Des gros travaux?
Ah oh non, c'est une longue histoire, là. J'ai défait son lit. On va refaire on lui refait une chambre d'ado. Plus bon. D'ado que d'enfant.
Parfait.
Hein? On est rendu là. Puis, c'est ça. Fait que, bref, popote avec Mamie Dou et tout le tralala.
Je suis
en train de devenir une madame.
Ouais, quand on fait de la popote, là.
Non, mais tu sais qu'on n'a plus les mêmes week-ends que dans le temps, hein?
Ben, je sais pas quel genre de week-end t'avais dans le
temps,
mais j'imagine...
Mais moi, quand j'avais ton âge, ouais. Clairement, bon, c'est sûr que je venais de devenir maman, mais j'étais quand même très, tu sais, j'aimais ça sortir une fois de temps en temps, puis là, on dirait que...
Ben, ça veut dire que je suis bonhomme depuis un bout, moi, déjà, là, parce que je sors pas beaucoup. Ah. Le genre de gars qui essaie d'éviter les bars autant que possible.
Ah!
Ouais?
Ouais, ben moi aussi maintenant.
Toi aussi maintenant?
Ouais.
Puis comment tu trouves ça, cette transition-là?
Ben correct, ben en fait, c'est que j'y vais pas. Presque plus, donc quand j'y vais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine en Titi. Et ça m'emmène à notre invité de ce soir. Parce que, mesdames et messieurs, avec l'arrivée de la fête de l'Halloween, l'automne, inévitablement, on se dirige tout droit vers le temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, dit partez.
Ho, ho, ho.
Partez de bureau, partez de... Hein?
Partez de
donc,
tout.
Partez de tout. Et s'il y a bien quelque chose qui est important lorsqu'on fait la fête, c'est de ne pas prendre le volant.
Ah, je pensais que tu allais dire c'était de mettre un condom.
Aussi.
Aussi, OK.
Aussi. Mais ça, on va en parler aussi en deuxième bloc parce qu'on va parler des parties de bureau et de l'infidélité dans les parties de bureau.
Ça arrive souvent.
Mais là, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous une personne très importante au sein du groupe de TZ Capital National, qui est un service de raccompagnement et partenaire de chez Choix 98h Radio X depuis 2009?
Exactement, depuis 2009.
Bonsoir, Daniel Bédard.
Allô.
Bonjour, Daniel.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Hey, ça me fait plaisir d'être avec vous autres.
Je suis vraiment contente. J'ai eu la chance de parler de TZ dans une capsule avec Robbie Moreau, dans Sans détour, dans les Vendredis Mélanie. Puis je me suis dit, là, il faut que je l'invite parce que je suis persuadée que tu as beaucoup d'anecdotes croustillantes à nous raconter, mais aussi je veux sensibiliser les gens parce que ça rejoint quand même, je trouve, notre auditoire et ce qu'on fait en général, on veut sensibiliser les gens. C'est une émission qui se veut sexo-éducative, puis on n'est pas obligé de toucher à la sexualité directement, mais aussi à la prévention. Donc, il y a des couples qui peuvent sortir un soir et se dire « Hey, regarde, ce soir, c'est toi qui conduis, finalement. » Madame ou
les
monsieur a envie de prendre un verre. Exactement, les deux l'échappent et là, la chicane peut prendre sur... Bon, là, il faudrait que tu arrêtes de boire parce que là, tu sais, bon, bien, TZ Capital National est là, est la solution. Donc, on peut prendre un abonnement.
Absolument. On peut s'abonner. C'est des abonnements annuels. Et on peut. Ça nous donne deux privilèges, le fait d'être abonné à TZ. Le premier, c'est de se faire accompagner soi-même, l'abonné avec son véhicule et les passagers qui sont avec lui.
OK.
Et le deuxième avantage qui sort de ça, c'est que quand tu reçois des gens chez toi, tu reçois un, deux, trois couples d'amis ou de la famille, tu peux faire accompagner ceux qui ne sont pas en état de retourner au volant de leur véhicule.
Hey, ça, c'est génial. Là.
Vraiment.
C'est comme moi, je ne bois pas souvent. Je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Puis bon. Par contre, si je reçois des gens à la maison, parce que je suis abonné, tout le monde peut repartir de façon sécuritaire.
Oui.
Maintenant, bon, l'abonnement coûte environ... C'est 75 $ pour l'année.
C'est 75 $ pour l'année.
Pour la carte de membre.
Pour l'abonnement individuel, c'est-à-dire pour une personne. Quand on veut le familial, quand on veut que tout le monde de la maison, les conjoints... Des fois, les conjoints sortent toujours ensemble, mais des fois, les conjoints sortent... Ils ont des activités professionnelles ou des activités personnelles chacun de leur côté.
Séparés.
À ce moment-là, c'est l'abonnement familial qui s'applique. Puis on, quand on a des enfants en âge de conduire un véhicule, bien, ils peuvent s'ajouter à nous dans le plan familial. Ce plan-là, c'est 130 $ pour un an.
Mais, c'est pas cher.
Mais dans les prochains jours, dans les jours qui viennent, on va avoir une promotion comme on a occasionnellement avec Radio X, où cet abonnement-là va être offert à des conditions très avantageuses. Donc, yes. J'invite les auditeurs de ce soir et les auditeurs en général de Radio X à rester à l'affût parce qu'ils vont pouvoir profiter d'une intéressante offre.
Est-ce que c'est une offre exclusive à choix?
C'est une offre exclusive à choix, oui. C'est une offre exclusive. Oui. On fait ça depuis le début.
Yeah! Quand on aime ça!
Quand on fait d'autres promotions avec d'autres organisations qui ne sont pas des médias, disons, là, on essaie d'avoir une offre différente parce que ça, c'est vraiment l'offre de Radio X.
OK. Et TZ Capital National, comment est venue l'idée d'offrir ce service-là? C'est une OSBL, hein?
C'est une OSBL. Ça remonte à 2007. Auparavant, c'était Tolérance Zéro, la défunte Tolérance Zéro, qui était une OSBL provinciale et qui a eu des difficultés financières, donc a dû cesser ses activités. En 2007, les régions qui étaient viables, on a recréé des OSBL dans la région de Québec, Mauricie, Centre du Québec, Baie-Comeau, entre autres. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés comme Saguenay, Gatineau, où le service pouvait être viable financièrement. Donc, on a continué la mission à offrir le service de raccompagnement parce qu'au départ, l'idée de base de ça, c'était Nez Rouge, c'est le fun, mais Nez Rouge, c'est seulement dans le temps des fêtes, donc ça prendrait quelque chose à l'année parce que on le sait très bien, là, les gens ne consomment pas de l'alcool seulement au mois de décembre.
Oui.
Donc, c'est l'idée de base est venue de ce principe-là que c'est un service qui était valable tout au long de l'année.
365 jours de 18h à 4h du matin, votre service est disponible partout dans la grande région de Québec.
Parfaitement.
Quand on parle de région, on parle, disons, Rive-Nord, Rive-Sud et Est-Ouest.
On part, si on veut prendre Rive-Nord, on part de la station touristique Mont-Saint-Anne. On se rend jusqu'aux limites de Neuville, donc la municipalité de Neuville. Puis tout ce qui est habité au nord, là, comme Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, Stoneham, Tewksbury, jusqu'au lac Saint-Joseph. Sur la rive sud, c'est de Beaumont à Saint-Antoine-de-Tilly.
Tabarouette, vous couvrez grand, là.
On couvre quand même assez grand. Ouais,
génial. Il y a quelqu'un ici qui dit vous direz coucou à Mylène de la part de Hugo, un chauffeur accompagnateur qui a fait du TZ depuis 2017.
Ah oui.
Là, vous avez des histoires, hein, des petites anecdotes croustillantes entre chauffeurs qui ont rencontré ou. Qui se sont rencontrés entre eux, dans le fond, parce qu'on peut devenir raccompagnateur, c'est bien ça?
Oui. On est toujours en recrutement. On a toujours besoin de gens. On a des gens qui en font sur une base régulière, qui en font une ou deux fois par mois à l'année longue. Il y en a qui viennent seulement chaque année dans le temps des fêtes. On a un gars qui vient, il s'appelle Richard. Richard, il vient à peu près 3 semaines dans le temps des fêtes. Là, à un moment donné, on le voit arriver un soir, puis il vient plusieurs soirs par semaine pendant les 2-3 semaines où, dans le temps des fêtes, il est comme un peu libéré au niveau de son emploi.
OK.
Puis lui, depuis 15 ans, il fait ça. On en a d'autres qui font, sur une base plus régulière, des fois des retraités ou des gens qui sont en pré-retraite ou à la retraite carrément, là, qui viennent faire un soir ou deux par semaine pour sortir de la maison, puis rendre un service, puis on ne se cachera pas, bien, ils touchent des pourboires, fait que ça leur fait un petit...
C'est un petit sideline de fun, ouais. Quand même.
C'est pas un emploi, ils sont volontaires. Non. Nous, on ne les rémunère pas. Celui qui utilise son véhicule, ben lui, il se compense, à même la contribution que les gens donnent, il se compense pour l'usure qu'il fait sur son véhicule et son millage. Puis ce qui leur reste au-delà de ça, ils se le partagent à la fin de la soirée entre eux. Ce qui fait que c'est très aléatoire. Certaines soirées, ça peut être très bien. D'autres soirées, c'est moins un peu. Mais on incite les gens à être généreux avec ces gens-là parce que le service repose sur leur présence. Puis sincèrement... Depuis l'augmentation du coût de l'essence, là, l'essence a pratiquement doublé depuis 2019.
C'est incroyable.
Oui. Le coût d'opération d'un véhicule aussi. On a perdu beaucoup de chauffeurs justement pour la considération financière que quand ils regardaient le pour et le contre de tout ça, ben, ils disaient ben, « j'arrive à la fin de la soirée ou j'arrive à la fin du mois puis je paye presque de mes poches pour le faire ». C'est pas toujours le cas, mais tu sais, 20 $ en 2007 quand l'organisme a été créé versus 20 $ aujourd'hui, ça n'a pas du tout la même valeur, là.
Puis, on suggère quand même, bon, c'est sur base volontaire, le pourboire et tout, mais on pourrait quand même, pour donner une petite idée, parce que moi, je me suis toujours demandé, mon Dieu, combien je devrais donner lorsque j'utilise le service. On suggère quoi aux gens?
Nous, on suggère aux gens 2 $ du kilomètre parcouru. Pour quelqu'un qui partirait, par exemple, de la Grande Allée, qui s'en va dans la première couronne de Québec, là, Beauport-Charlebourg, quand on fait une dizaine de kilomètres, là, je ne parle pas d'aller à Sainte-Thérèse, de Lisieux, mais on va dans la première couronne, Beauport-Charlebourg, du Berger, les Saules, on parle d'une vingtaine de dollars à peu près. Puis là, quand on va plus loin, quand on va à Saint-Émile ou à Notre-Dame-des-Laurentides ou à Val-Bélair, bien là, on parle peut-être plus de 30-35 dollars, dépendamment de la distance. Mais dites-vous que votre véhicule revient avec vous. Le lendemain, vous n'êtes pas obligé d'aller
pas obligé de retourner, le chercher. Hangover, chercher la voiture. Des fois, ça se peut que tu ne sois même pas en état encore. Vous vendez aussi des machines, hein?
Bien, on vend des... C'est pour accommoder nos clients. On a des détecteurs d'alcool qu'on appelle des éthylomètres personnels. Ils sont listés sur notre site web. C'est des appareils qui sont fabriqués et vendus par la compagnie Alco-Prévention Canada.
D'accord.
C'est des appareils dont les normes sont élevées. Ils ont même déjà eu des comparatifs sur Protégez-vous avec ces appareils-là. Puis ces appareils ont été reconnus comme étant des bons appareils, des appareils fiables, parce que là-dessus, dans ça, c'est comme toute chose. Il y a des bons appareils, puis il y a des mauvais appareils, mais il y a aussi la façon de l'utiliser. Donc, c'est important, quand on se procure cet appareil-là, de suivre les règles pour s'en servir de façon adéquate. Il faut attendre un certain temps après avoir consommé pour que la lecture soit fidèle. Et il faut faire calibrer ces appareils-là une fois par année pour que la lecture soit précise.
Adéquate. OK. Et il y a quelqu'un qui demande sur le live TikTok. On commence à vous lire, mais on demande toujours aux gens d'interagir avec nous via le 418-670-9098 par texto ou par téléphone si vous avez des questions. Quelqu'un demande quelles sont les étapes pour pouvoir devenir accompagnateur.
Bien, pour devenir accompagnateur, les gens peuvent voir les informations sur notre site qui est le www.tzcapitale.com.
Parfait.
Les renseignements relatifs à ce que ça prend comme exigence, c'est sûr, ça prend un permis de conduire valide.
Évidemment.
Ça prend une personne qui a une bonne...
Il n'y a pas de dossier criminel.
C'est ça, une personne qui a une bonne réputation, qui a un bon comportement. On vérifie des références de ces gens-là. On fait quand même un screening. Là,
beaucoup de patience aussi, j'imagine.
Ouais, ça prend de patience, mais en général, les gens sont gentils. Tu sais, on parlait tantôt d'anecdotes, là, je vais vous en raconter quelques-unes tantôt, mais en général, les gens sont gentils, là. C'est vraiment des cas d'exception où des fois, un client va être un peu...
désagréable.
Déplacé ou désagréable, mais c'est vraiment... plutôt rare.
J'imagine que votre période forte, c'est pendant le temps des fêtes?
Oui, pendant le temps des fêtes, là, si vous aimez ça, des chiffres là, pour vous donner des idées de grandeur, avant la pandémie, bien sûr, là, en 2019, on a fait à peu près 66 000 raccompagnements dans l'année.
Wow! Vous êtes des sauveurs de vie.
Oui, on est des sauveurs de vie, puis des sauveurs d'ennui aussi. Là. Des sauveurs d'ennui. Parce que quand le conjoint et la conjointe voient son partenaire arrivé avec une équipe de TZ, je pense qu'il est content. Il se dit, il s'est servi de sa tête ce soir, il est intelligent. Puis ça arrive. On a des gens qui nous rappellent le lendemain pour dire merci.
Wow!
Vous avez raccompagné mon conjoint hier ou ma conjointe, là, puis il avait vraiment besoin de vous autres. On a même quelqu'un que pendant le raccompagnement, ils ont eu un accident de voiture, tu sais, puis le monsieur n'était pas fautif, c'est l'autre conducteur qui n'était pas en état d'ébriété, qui a perdu le contrôle, puis qui est venu les frapper de plein fouet.
Oh!
S'il avait été au volant de son véhicule, c'est sûr que c'est lui qui aurait été automatiquement dans les problèmes.
Ben oui, absolument.
Donc,
puis au niveau des règlements, moi, en tout cas, à moins que ça ait changé, là,
ouais.
Mais plus jeune, une gang d'amis du secondaire est sortie de party et ont décidé de dormir dans leur voiture.
Ouais.
C'était l'hiver. Ils ont dit, ben on va dormir dans notre char jusqu'à temps qu'il fasse soleil demain matin, puis on va partir. La police est arrivée. Ils ont arrêté chaque conducteur qui était couché dans chaque véhicule, dans trois véhicules.
Garde d'un véhicule en marche, état d'ébriété.
En état d'ébriété. Ouais. J'ai une autre personne dans le défunt Popcorn, le Popcorn à Charlebourg. Lui connaissait cette règle-là. Il s'est dit, parfait, mes clés, je vais les cacher à côté du conteneur, puis je vais me coucher dans mon char. Quand les policiers sont arrivés, ils lui ont demandé, est-ce que tu as tes clés en ta possession? Non. OK, qu'est-ce qu'ils nous le prouvent? Bien, ils sont là-bas, à côté du conteneur. Les policiers sont allés chercher les clés à côté du conteneur. Ils ont été quand même corrects, là,
ouais.
Mais ils lui ont dit, tu étais en connaissance d'où étaient tes clés, donc...
T'aurais pu.
Ouais. Tu sais, t'étais en état d'ébriété. Fait que, même si vous cachez vos clés ou que, bon, bref, vous ne pouvez pas être dans un véhicule en état d'ébriété.
Non,
simplement. Ça ne fonctionne pas. Le mieux, c'est vraiment de prendre les services de TZ, ni plus ni moins. Mais tantôt, tu parlais d'accident. Est-ce que, en matière d'assurance, comment ça fonctionne?
Bien, Au Québec, on a un régime d'assurance particulier. Hein? On est le seul endroit en Amérique du Nord qui a ce style de régime mixte. Donc, l'assurance du gouvernement du Québec avec la SAAC au niveau corporel,
oui,
et l'assurance de dommages. Et on a un peu un système qu'on appelait ou qu'on appelle encore un peu le no fault. Là. Ça évitait beaucoup les poursuites puis que des gens se fassent mettre à la rue justement parce qu'ils se font poursuivre suite à un accident de voiture et tout ça. Donc, au Québec, c'est toujours l'assurance qui se rattache au véhicule qui est en force. Donc, nous, quand on raccompagne quelqu'un, c'est comme si on était un conducteur désigné. C'est son assurance qui est en force sur le véhicule. Advenant le cas où un de nos conducteurs fait une fausse manœuvre, qui, par exemple, je sais pas, il frappe un cutter, comme on dit en bon québécois, ou il y a un dommage, ou une collision où il est reconnu responsable, on va assumer le déductible. Mais pour l'assureur, c'est quand même encore mieux d'avoir un conducteur désigné sobre que d'avoir le propriétaire ou le conducteur du véhicule en état d'ébriété. Ça diminue quand même grandement le risque pour eux là, d'avoir un conducteur désigné. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est toujours l'assurance qui... Puis, il en arrive très peu. Là. Écoute, il y a des années là, qu'on a eu peut-être 2 sur 60-65 000 raccompagnements, 2 ou 3 cas. Là, c'est toujours des petits montants parce que c'est toujours à basse vitesse. Quand ça se produit, c'est dans le stationnement, c'est en se stationnant sur le bord d'un trottoir. Donc, c'est toujours des dommages mineurs. Sauf une fois ou deux où un conducteur a frappé un chevreuil là, dans le coin du Walmart à côté des Galeries de la Capitale. Là,
oh!
Sur du Vallon.
Malchance.
Malchance. Un chevreuil dans le stationnement, juste à côté du stationnement du Walmart, il faut le faire.
Tabarouette.
Mais ça arrive. Okay. Mais je veux revenir à la question que tu m'as posée tantôt pour le recrutement parce que celle-là,
oui,
elle est importante.
Oui.
On a dévié. Sur notre site, l'information est là. Puis il y a un formulaire que les gens peuvent compléter pour nous manifester leur intention de faire du raccompagnement. Puis nous, dans les jours qui suivent, on les contacte, ces gens-là. Puis on leur explique, on les aide. Ils ont besoin de nous fournir 2 documents. Le dossier de conducteur de la SAAC. Ça, c'est une étape simple, ça se demande en ligne. Tout ça, on peut même les aider là-dedans. Et le deuxième papier qu'on a besoin, c'est leur plumitif. Autrement dit, leur dossier ou leur absence de dossier judiciaire, là.
La preuve comme quoi vous n'avez pas de dossier criminel.
Exactement. Exactement. Parfait. Donc, c'est les étapes à franchir. Puis, ils peuvent souvent commencer la semaine même à faire du raccompagnement.
Il y a quelqu'un qui mentionne, « Wow, 2 $ du kilomètre, je suis camionneur, puis je gagne 38 cents du kilomètre. » Bien là, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est ça. Donc, ça peut faire un beau petit sideline quand même pour quelqu'un. Puis en plus, les dépenses liées au kilométrage et toute la voiture, j'imagine que ça peut être déclaré.
Bien, un employé qui utilise son véhicule dans le cadre de son emploi, il se fait rembourser dans l'ordre d'à peu près 60-65 sous du kilomètre. Là.
Exact.
Puis, tu sais, quand il fait ça, bien, il est dans le cadre du travail. Il est payé pour travailler. Nous autres, la personne, elle utilise son véhicule. Puis, tu sais, c'est à peu près ce que le Club automobile dit que ça représente, un véhicule, là, c'est entre 60 et 70 sous du kilomètre.
Oui.
Mais c'est parce que nous, on charge le kilométrage fait lors du raccompagnement du point A au point B. Mais, par exemple, si on va chercher un monsieur au lac Saint-Joseph, puis que l'équipe qui part d'Ancienne Lorette ou de Val-Bélair pour aller le chercher, bien, il y a du kilométrage à faire pour y aller.
Oui.
On revient, puis après ça, ça ne veut pas dire qu'on est à côté du prochain client non plus. Donc, il faut tenir tout ça en compte aussi. Là.
Yes. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, il n'y a pas de raison de ne pas vous abonner à TZ, à moins que vraiment vous soyez toujours le conducteur désigné. Mais moi-même, je suis souvent conducteur désigné et d'avoir mon abonnement, je trouve ça vraiment intéressant. Surtout à l'aube des différents parties qui s'en viennent, les parties de Noël, les parties de bureau, tout ça. C'est pratique, là. Les conjoints, les conjointes, là, ça vaut vraiment la peine. Et côté détails croustillants, l'entrevue tire bientôt à sa fin.
Oui.
Mais est-ce qu'on aurait une petite anecdote cocasse à nous raconter?
Ben, j'en ai peut-être une couple. Là, ça nous est déjà arrivé à un moment donné. Ça m'est arrivé à moi là, parce que j'en fais de temps à autre dans le temps des fêtes. Tu raccompagnes un couple, une madame et un monsieur.
Oui.
Là, tu les raccompagnes un soir. Puis la semaine suivante, tu retournes faire un raccompagnement, tu raccompagnes la même madame, mais là, tu réalises que cette fois-là,
elle est avec un autre
elle était avec son mari cette fois-là, mais la semaine d'avant, elle n'était pas avec son mari. Là, tu comprends. Puis quand elle te voit arriver la deuxième fois, ben là, elle était comme un peu... elle dit, oh, là,
faut pas qu'il parle, lui.
Pas encore celui-là, c'est ça, exactement.
Puis, mais il y en a eu des histoires d'amour aussi qui se sont développées.
Oui, on a des gens qui se sont connus en faisant du raccompagnement, puis qui sont des couples aujourd'hui. Puis on a des gens qui ont raccompagné quelqu'un, puis par la force des choses, avec le temps,
ils sont devenus
contact. Des couples. Exactement.
Mais c'est ça, couples. Donc c'est aussi une belle façon. Quelqu'un qui est célibataire, qui s'ennuie, que tous ses chums sortent et tout ça, ça peut être une belle façon de briser l'isolement, de sortir, de rencontrer, de faire des belles rencontres.
De connaître la ville aussi, on en avait. Des fois, qui arrivaient de l'extérieur, ils ne connaissaient pas la ville. Donc, ça leur permet de se familiariser avec les différents endroits pour sortir, pour socialiser, puis rencontrer du monde aussi. Il y en a qui se sont trouvés des emplois même en faisant du accompagnement.
Bon, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment... Ouais. C'est extraordinaire. Bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment une mission incroyable. Mais je pense que j'ai envie qu'on raconte la petite anecdote que vous avez racontée juste avant d'entrer en onde. La personne qui a demandé d'être accompagnée à telle adresse.
Oui, OK. Ouais, ça est arrivé quand même à quelques reprises. Le monsieur se fait accompagner à une adresse. Il arrive là et... On l'aide un peu à débarquer parce que les facultés pas mal affaiblies. Et la clé ne fonctionne pas dans la serrure. À un moment donné, quand il est 2h du matin, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas le laisser là en plein hiver. Fait que là, on sonne à la porte parce qu'il y a un autre véhicule dans l'entrée. Et là, la porte ouvre et c'est son ex-conjoint chez qui il n'habite plus. Donc,
il a oublié qu'il n'habitait plus là.
Il a oublié qu'il n'était plus là, exactement.
Le malaise. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Donc, pour les gens qui voudraient s'abonner ou se procurer un appareil...
Un
itinéraire. Ou quelqu'un qui voudrait devenir accompagnateur, oui. C'est www.tzcapitale.com.
Oui.
Merci, Daniel.
Ben, merci à vous deux.
Merci beaucoup, Daniel. Bédard de TZ Capital National, qui l'ont pas eu facile, hein, on a oublié d'en parler, là, mais durant la pandémie, ça a été vraiment difficile pour vous.
Très difficile.
Vous êtes relevé les manches, oui. Et là, plus que jamais, on veut que les gens s'inscrivent comme accompagnateurs. Puis,
on veut qu'ils nous appellent.
Oui, appelez. Le numéro de téléphone, on peut peut-être le mentionner aussi.
Oui, c'est le 418-861-9590.
861-9590. Oui. 418-861-9590. Si quelqu'un, par exemple, est dans un bar,
oui.
Et voudrait utiliser vos services dont le bar n'est pas membre, est-ce qu'il y a possibilité de s'abonner?
Oui, il peut s'abonner. Soir-même? Il peut s'abonner le soir même. Mais à Québec, là, il y a 360 établissements licenciés qui offrent notre service. Restaurant, bar, hôtel, quand tu arrives à la porte d'entrée, tu vois les autocollants de TZ sont là ou dans les toilettes, il y a des affiches. 360, ils sont tous listés sur notre site web. Donc, quand on fait un choix pour sortir ou pour aller manger au restaurant, puis qu'on se dit, au pire, aller, si je consomme de l'alcool, puis je ne veux pas conduire, je ne veux pas prendre de risques, ils peuvent aller voir notre site web parce que ces endroits-là sont tous listés sur notre site.
Donc, ça vaut la peine de s'informer.
Oui.
Merci beaucoup, Daniel Bédard, TZ Capital National. Vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98.1 Radio X.
La Sex.
La Sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel,
Radio X.
De retour avec la Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X. C'était une super, vraiment une belle entrevue en fait avec Daniel de TZ. Et il y a beaucoup de beaux commentaires constructifs et intéressants sur le live TikTok. Mais on vous suggère fortement d'interagir avec nous. Via le 418-670-9098. J'ai envie de rebondir un peu avec ce dont on a parlé, là, les gens qui embarquent dans le service de raccompagnement TZ, un soir avec une personne et l'autre soir avec une autre personne qui, clairement, n'est pas le même conjoint, la même conjointe.
C'est juste mon ami.
Donc, on parle ici d'infidélité de partie de bureau, par exemple.
Effectivement.
Hein? Mais c'est avec ça qu'on va poursuivre la discussion. Avec Dr. Paul Simard, psychologue.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, docteur. Comment ça va?
Ça va. Merci pour l'invitation.
Mais merci à toi, Tabarouette. C'est toujours un plaisir. Et ceux qui ont manqué la Sexploratrice en conférence avec le psy,
oui.
C'était vraiment le fun.
C'était intense.
Oui, c'était intense.
On va se le dire, il y a quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire qui a fait que ça a duré 2h45.
Ah oui? Mais non, mais ça participait quand même...
Oui, bien, c'est surprenant qu'on ait réussi à capter l'attention de tout le monde tout ce temps-là.
Mais oui!
Fait que les gens étaient assis sur leur siège, scotchés, puis ils ont bouffé de l'information. Là. On
oui.
a balancé beaucoup de trucs.
Vraiment?
D'ailleurs, toi, t'étais là?
Ah, oui, moi, j'étais Max, là, puis j'en aurais pris jusqu'à minuit, moi.
Ah, ouais?
Ben oui, mais absolument. Puis,
c'est toujours ça qui arrive.
Oui, mais je vous ai enregistré, puis depuis ce temps-là, je vous écoute à tous les soirs avant de m'endormir.
Quoi? Ouais, c'était pas dans mon contrat.
T'as pas permis ça? Non, on va t'envoyer un chèque.
T'es pas au courant non plus! Donc, docteur Simard, à l'approche des parties de bureau, du temps des fêtes et tout.
Oui.
On voit de... on voit qu'il y a quand même une fébrilité, puis il y a inévitablement, il y a de l'infidélité qui se crée.
Ah oui, non, un peu. Pas inévitablement, mais on pourrait dire un haut pourcentage.
Inévitablement,
t'es en train de faire peur au monde.
Ben non, mais ben, OK, ben, je suis désolée, là, c'est la réalité, hein, on va se le dire. Ça arrive dans plus. Ben, dans...
Donc les gens n'auront pas le choix, il faut qu'ils soient infidèles, si je te comprends.
Non. Ce que je veux dire, c'est que dans la grande majorité des parties de bureau, on dirait que c'est présent, l'infidélité.
Oui,
okay,
oui, ça, c'est plus modéré, j'aime ça. Ah oui.
OK, il ouais, faut que je fasse attention à mes mots. Hein,
de... ah ouais. Ben, c'est parce que c'est un moment de changement dans les règles de fonctionnement ensemble. Hein.
Mm-hmm.
Là, tout d'un coup, on s'est regardé toute l'année de manière peut-être un peu rigide, peut-être un peu à course. On s'est peut-être trouvé beau, belle à distance. Puis là, tout d'un coup...
Bing, 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 bing! La boisson, le temps.
Oui.
Le changement d'environnement.
C'est pour ça que selon certains sondages... qui tendent à se répéter au niveau de la, des chiffres.
Oh, j'ai hâte de voir si tu as les mêmes statistiques que moi.
Peu, ah oui, OK. Mais je vais dire mon chiffre en premier ou
vas-y
toi?
Donc.
Moi, j'ai un chiffre d'à peu près 50 % des infidélités au Québec qui auraient lieu pendant la période des parties de Noël de bureau.
50 %? Mon Dieu, c'est
de
bien
l'ensemble énorme. Des infidélités, ça serait combiné. Il y a comme un rush dans cette période-là de combinaison de fragilité.
La féerie du temps des fêtes.
On pourrait plus dire les... la consommation d'alcool élevé du temps des fêtes. Et les rassemblements et la promiscuité du garde-robe de l'entrée qu'on avait vu avec le collègue de travail, mais qu'on n'était jamais allé.
Moi, c'était l'aveu de 36 % des gens sondés qui avaient été infidèles avec un ou une collègue de travail lors d'une réception de Noël organisée par le bureau. Et 62 % des gens interrogés auraient des fantasmes sur un ou une collègue.
Ouais, ben, les chiffres que j'ai, moi aussi, vont un peu dans ce sens-là. Ce serait à peu près 25 % des hommes qui planifient un fantasme déjà par rapport à ça. Là, qui se disent, oh, si ça l'arrivait, ça serait le fun.
Ils planifient un fantasme.
C'est ça, ils se disent que là, au parti de bureau, ça, j'ai hâte de voir telle personne. Oh, j'espère que... Puis chez les femmes, ça serait un peu plus bas. Il y aurait à peu près en moyenne une approximation de 18 % de femmes qui le font, cette planification-là. Fait que c'est pas si loin.
C'est pas si loin.
25, 18. On voit que dans les chiffres en général, puis le garde à l'esprit qu'il s'agit de tendances générales.
C'est des tendances générales et il faut pas, là, être insécure et se dire « Oh mon Dieu, mon conjoint ou ma conjointe dans un parti de bureau non accompagné, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. » Si votre couple va bien, si la communication va bien, s'il n'y a pas de... Je veux dire, ça devrait pas arriver. Et si ça arrive, ben là... Faut gérer, mais...
Oui. Mais moi, je pense que c'est la deuxième catégorie d'infidélité sur les trois grandes catégories.
Vas-y donc.
La première catégorie d'infidélité que j'observe dans ma pratique, moi, c'est l'infidèle chronique, pour commencer.
Oui.
Celui qui, même si il dit qu'il ne le fera plus, il fait pareil. La deuxième catégorie d'infidélité, c'est l'infidélité qu'on pourrait dire épisodique ou ponctuelle. Comme, mettons, il y a une condition spéciale. Ah, oh, c'est le party de bureau. Ah, oh, ça, c'est pas ce qu'on avait bu. Ah, oh, ben, c'est juste au chalet. Ou c'est. Ça prend un épisode spécial pour déclencher ça. C'est pas forcément à l'année. Puis, la troisième forme d'infidélité, c'est l'infidélité impulsive. C'est quand le désir monte à l'intérieur de soi. L'urgence est tellement grande qu'ils réfléchissent même plus à l'action. C'est juste. C'est automatique, ça va de soi.
On en a parlé dans un épisode précédent. Une infidélité. Devons-nous ou non l'avouer?
Oui, ça dépend.
Ça dépend, hein?
Oui. Le critère principal que je suggère, moi, en thérapie, quand on me demande cette question-là, c'est « As-tu tiré un apprentissage de ton infidélité? » Parce que si tu n'as pas tiré un apprentissage puis que tu n'as pas réfléchi là-dessus, ça va juste être comme une forme de déversement de tes angoisses sur l'autre parce que là, tu n'auras plus rien à te reprocher. J'y ai dit! Ne serait-ce pas là un terrain fertile à répéter l'infidélité à nouveau? Fait que, moi, je pense que l'angoisse liée avec le fait d'avoir été infidèle, c'est pratique. Ça sert à tirer une leçon. C'est comme si c'était un signal d'alerte qui dit de l'intérieur « Hey, oublie pas, hein, cette affaire-là, faut plus que tu le refasses. Là. Oublie pas, là. Oublie pas, là. Hey, maudit que je me sens pas bien. Oublie pas. » Donc, les gens qui déversent ça sur l'autre, c'est comme s'ils contaminent de leur insécurité leur partenaire plutôt que de vraiment intégrer. Là.
Mais à partir du...
J'ai aussi l'impression que de l'avouer, c'est un peu une façon de reconstruire le mur. C'est la première pierre du mur de notre relation à reconstruire.
Oui, bien, ça fait partie d'une résultat de recherche qui a été fait, qui a été publié l'année dernière sur les processus de réparation des couples après une infidélité, quand ils décident de rester ensemble. Hein. Le premier résultat de l'étude, c'est que l'étape de révélation de l'infidélité, elle ne doit pas être faite n'importe comment. Il faut que ça soit fait de manière respectueuse, délicate, pas déverser sur l'autre, mais informer l'autre. Il ne faut pas non plus que ça soit dans un cadre, on va dire, qui va humilier la personne, comme par exemple l'annoncer dans un party de famille devant tout le monde. « En passant, je t'ai trompé. » Ça crée une double
ou
blessure.
Ou en alcool, en état de... en état d'ébriété, c'est pas une bonne idée d'annoncer l'infidélité à l'autre personne?
Sous alcool?
Sous alcool, sous l'effet d'alcool?
Ah, ça risque de sortir un peu croche.
Oui. Et il y a quand même plusieurs couples qui se voient renaître suite à une infidélité. Là, comme,
oui.
Donc, ça peut briser comme ça peut aider à reconstruire le couple, comme on
oui.
disait.
Moi, je pense que c'est la proportion, là, c'est 50-50.
Ah ouais, tant que ça?
Oui, parce que l'infidélité, c'est une crise. Ça génère une méga grosse crise là,
oui.
dans la relation. Puis la job d'une crise
c'est
sur le
trahison,
plan...
en
ouais,
fait.
Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui en meurent de ça, t'sais, d'une crise. Fait que jamais je recommanderais de générer une crise comme ça pour le fun.
Mais quand
une
tu dis
fois
qu'il en meurt, là...
Il y a des gens qui vont s'enlever la vie.
OK.
Ou il y a des gens qui vont
parce que
commettre des tragédies qui vont tuer leur partenaire.
Parce qu'on en a déjà parlé, là, une peine d'amour, le cœur brisé,
oui.
ça pourrait avoir des effets vraiment néfastes sur la santé au point de...
Oui, ben, au niveau du stress chronique, puis au niveau de la revivance, comme un peu un stress choc post-traumatique, il peut y avoir des deuils complexes. Là, qu'il y a des trucs de revivance là, qui durent pendant plus que 2 ans après la rupture, comme si ça venait d'arriver. Là, on pourrait aller vers des indicateurs là, de sévérité grave. Là.
Puis même des traitements là, comme pour le choc post-traumatique et tout. Il y a des gens
oui.
qui vont jusque-là. Là.
Exact, c'est ça.
C'est une
ça.
Rupture...
Oui.
Ou une trahison.
Mais c'est
okay.
pour ça qu'une fois qu'on est dans la crise, par contre, ça peut également être une occasion de rebrasser les morceaux du casse-tête
oui.
là, d'une autre manière qui était pris avant, là, puis ça a explosé. Fait que ça, c'est ce que la recherche que je vous mentionnais tout à l'heure, qui a été publiée l'année passée, elle appelle ça la revitalisation du couple.
Mmh.
Fait que est-ce qu'on va tirer un apprentissage, justement? On va-tu mieux communiquer? On va-tu mieux faire l'amour? On va-tu mieux faire quelque chose?
Mais... comment retrouver la confiance en l'autre une fois que ouais. ça a été brisé mm-hmm. et qu'on a été trahi? Ça doit être tellement difficile. En fait, je confirme, c'est tellement difficile.
ça sent l'expérience vécue.
L'expérience vécue. Oh non, mais on va se le dire, là.
Ben oui.
Une trahison.
Ça fait mal.
Ça fait mal. Puis là, tu dis, hey, il l'a fait une fois. Surtout une trahison qui a réussi à
cacher, là.
C'est ça, qui a réussi à survivre au travers le temps. Et que tu as appris des mois plus tard,
ah,
disons.
Ça, oui, oui. Sur le long
ça,
terme.
Ça, là, ben, c'est parce que là, tu te remémores plein de trucs et là,
c'est
tu
ça.
Fais, hein?
Surtout quand
tu
as donné la chance.
Comment ça, je m'en suis pas rendu compte avant.
Puis tu donnes la chance à l'autre de le dire. Là. S'il y a quelque chose qui va pas, je suis ouvert. Là. Puis là, tu sais, tu dis, je suis irréprochable dans la relation. Je fais tout ce que je peux pour prendre soin de cette relation-là. Puis là,
puis là si tu as un doute puis tu as une boule en dedans, là, puis là, tu dis, tabarouette, j'ai des doutes. Puis là, tu dis, non, tu t'inquiètes pour rien. Non, puis là, tu te remets en question toi-même. Tu
ouais.
perds toi-même confiance en toi. Puis tu te dis, ah, je suis en train de virer folle.
Mais ça, c'est contagieux. Hein? Quand on sent ce genre de boule-là, c'est que parfois, il y a une partie qui nous appartient. Puis il y a parfois une partie qui est absorbée par le ressenti que l'autre personne devant nous a. Fait que pour ça, pour démêler si la boule que j'ai à l'intérieur de moi m'appartient ou appartient à l'autre, ça prend une bonne connaissance de soi. Parce que, mettons, il n'y a aucune raison pour que je me sente mal. Puis quand je discute avec cette personne-là, de manière récurrente et répétée, je me sens pas bien, quelque chose qui va pas. Donc, on parle pas d'un événement unique ou d'un seul symptôme, mais c'est des modifications dans l'habitude intérieure. Mais pour ça, il faut savoir regarder à l'intérieur de soi. Puis quand on est stressé, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un rythme de vie assez stressé puis agité, bien ça fait en sorte qu'on regarde pas à l'intérieur de nous. On fait juste regarder ce qui est évident devant nos yeux. Puis on pince sur le gaz. Mais dans une vie équilibrée, il faut savoir parfois se ranger sur l'accotoir et voire même utiliser le reculon. Le reculon, ce n'est pas l'échec d'avancer sur un char. On peut reculer parfois pour s'ajuster.
Mmh.
Puis là, ce serait bien de revenir sur ces sujets-là pour dire ça m'a plus blessé que ce que je pensais. Là. Puis là, si l'autre est disponible pour réparer à nouveau, bien, c'est ça que l'étude disait. Elle appelait ça la phase de stabilisation, négociation de la relation.
OK.
C'est une phase importante, ça, savoir négocier sur si on continue ensemble, c'est quoi les nouvelles règles? Parce que là, peut-être qu'on prenait pour acquis qu'il y en avait des règles, mais là, on peut-tu les formaliser?
Et si on a l'intention de quitter la personne
oui.
alors qu'on a été infidèle, c'est peut-être mieux de rien dire, finalement, de ce que j'ai déjà lu et entendu.
Oui. Oui, oui.
Les sexologues conseillaient les psychologues de ne pas le dire. De ne pas déverser.
Je
ne
connais pas ces psychologues-là, mais j'aurais tendance à être d'accord. C'est ça, c'est pour ne pas blesser l'autre d'une manière à s'acheter un espèce de manteau de vertu en disant « ben moi, j'ai été honnête, mais là, tu viens de sacrer un coup de poing dans la capacité d'estime de la personne. »
Exact, ça peut tellement détruire quelqu'un. Là.
Exact, exact.
Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, puis je ne suis pas assez, je ne suis pas, tu sais. C'est vraiment triste.
Et oui. Ouais.
Donc, le truc pour retrouver la confiance en notre partenaire qui aurait été infidèle. Le truc idéal.
Je pense qu'il y aurait deux phases.
OK.
Il y a la phase initiale, on va dire, après le choc, on va dire, initial, quand tu l'apprends. Là, on est en phase, parfois, de crise, là. Puis cette phase de choc-là, c'est un peu comme un accident, là. Si tu avais un accident de voiture, là, à 50 km/h, pouf, les coussins gonflables gonflent. Préventivement, on va t'envoyer à l'hôpital. Hein. Puis il faut que tu sois sensible. Fais pas trop de sport pour ton cou pendant quelques semaines. Ah, c'est drôle, on fait pas ça avec quelqu'un qui vit une peine d'amour ou une infidélité. Mais dans le cerveau, là, ça allume les mêmes aires cérébrales qui gèrent la douleur. Ça, c'est comme si on vivait un véritable accident là, de s'être fait trahir à l'intérieur du cerveau. Là.
C'est fou, le corps humain!
Les aires cérébrales qui s'occupent de la douleur sont méga activées. Là. Fait que la personne souffre. Fait que dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir des comportements de crise à savoir gérer. Puis là, ce ne sera pas les mêmes interventions moi, que je vais faire en clinique avec quelqu'un qui est en crise. Puis quelqu'un qui, après la crise, va renégocier les règles, reclarifier. C'est pas du tout les mêmes interventions. Fait que pour aider une personne dans une situation de crise, parfois, il faut que je recommande à la personne qui a été infidèle de peut-être donner plus accès aux informations qui normalement sont verrouillées dans son téléphone ou son courriel pendant une courte période. Juste une courte période, pas tout le temps.
D'entrer dans le jardin secret?
Ben, dans manière court terme.
Okay.
Pour arrêter l'hémorragie de méga doute, inquiétude. C'est comme si vous voulez passer cette période méga sensible-là, qui dure entre quelques jours et 3 semaines. Donc, allez pas dans des 6 mois de surveillance, parce que ça, on n'est plus dans un soin d'un choc initial. On est dans de l'intrusion, de la vengeance.
Puis quelqu'un de malhonnête va tout simplement, durant quelques semaines, faire attention aux messages qu'il envoie.
Ben oui, ou il va s'acheter un autre cellulaire. Oui, c'est ça.
Et puis, il y a des applications que tu peux mettre dans tes applications pour avoir un sous-menu.
C'est ça.
C'est épouvantable. Là.
Fait que dans tous les cas, il y a des interventions qui devraient favoriser la réduction du stress, qui pourraient avoir de l'air à être intrusives, mais qui sont valides seulement pour quelques semaines.
Pour apaiser, redonner confiance.
Ça. Exact. Puis là, si on continue puis on réussit dans cette phase-là à réduire le stress, bien là, on va passer à un autre genre de kit. On va rétablir des règles de clarification des frontières. Puis là, moi, jamais j'encouragerais quelqu'un à fouiller dans le téléphone de l'autre ou dans les courriels de l'autre ou à localiser GPS quelqu'un. Ça, c'est...
Ah, y a des couples qui partagent leur géolocalisation en tout temps.
Oui. Des membres de famille également.
Tu penses quoi de ça? Oui, des membres de famille.
Si c'est consenti, moi, je trouve ça très bien.
OK.
Ça vient par défaut maintenant avec les Tesla et tout ça. Les gens, ils peuvent localiser sur l'application où est le char un peu partout, peu importe s'ils le prêtent à qui.
Ah,
oui. Mais oui, avec les iPhones, d'ailleurs, je pense que ça vient, tu peux l'appliquer facilement. Mais avec Google aussi, tout est possible. Mais si c'est activé en cachette, moi, ça a déjà arrivé que je rencontre des gens qui ont découvert, en discutant de ce sujet-là en thérapie, que, ma géolocalisation est ouverte sur mon téléphone pour tout le monde qui a le lien. Là, c'est qui avait le lien?
C'est son chum ou sa blonde?
Non, c'est l'ex-ex-chum. Ça faisait longtemps qu'elle s'était géolocalisée.
Ah ouais.
Puis là, je romance des histoires, j'en mélange 4-5 quand je fais une histoire de même. Mais oui, un ancien conjoint qui continue depuis des années à traquer
non!
une personne.
Hey, mais ça, c'est vrai, il faut faire attention. Parce qu'une fois, j'étais avec une amie, en tout cas dans une autre ville, puis on s'était géolocalisés, on partageait notre position. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que des mois plus tard, j'avais encore sa géolocalisation. Je disais, hey, je sais, t'es où? Faut que t'ailles enlever ça, là.
Oui.
Faut pas oublier, tu sais. Moi, je le fais souvent, ça. Surtout, si je pourrais, je suis prise dans le trafic ou quelque chose, ou peu importe, là, par Facebook ou par mon iPhone,
oui.
Je partage ma géolocalisation.
Ben oui.
Bon, sur Facebook, c'est pratique, via Messenger.
L'activation 60 minutes ou tout le temps, je pense.
C'est 60 minutes, automatiquement, ça s'enlève. Mais l'iPhone, faut faire attention parce que ça peut rester pour tout le temps.
Oui.
Si on le met pour plus.
Mais en dating, d'ailleurs, c'est une des mesures de protection que moi, des fois, je recommande aux gens quand ils vont aller en rencontre avec quelqu'un.
Mais oui!
Activez vos géolocalisations.
Ah, mais ça, je demande aussi à mes amis de le faire, exactement.
Envoyez-le à vos amis, à deux,
mais
trois
oui.
amis, comme ça.
Si vous allez en rencontre avec un pur inconnu,
oui.
que dont vous connaissez, vous avez l'adresse, tout ça, bien, premièrement, vous envoyez l'adresse à une personne de confiance et vous partagez votre géolocalisation.
Là, je ne dis pas d'activer la géolocalisation de la personne que vous datez, hein. Je parle de votre localisation.
C'est ça! Donc, aurais-tu d'autres conseils à donner par rapport à l'infidélité?
Oui.
Non. Oh oui!
Bien, sachez que c'est normal d'avoir des fantasmes puis que là, il va falloir que vous clarifiez c'est où que ça l'arrête, la nuance entre fantasme et le comportement.
Ça, des fantasmes, on garde ça pour nous. Là. On ne partage pas ça à notre conjoint.
On pourrait dire que... Ben, pourquoi pas les partager?
On partage ça à notre conjoint?
Oui, oui.
Ah oui, hein?
Ah, oui, oui. Pour enrichir un imaginaire ensemble, certains fantasmes pourraient être partagés. Mais pas tous.
Il y en a
des fois qu'il faut se garder pour soi. C'est vrai que le jardin secret, c'est sensible. Puis parfois, il y a juste de la place pour marcher une personne là-dedans. Fait qu'il y a des gens qui ont des fantasmes qui ne voudraient pas les partager.
Ça peut... Je sais pas, tous des fantasmes, là, mettons... Ta conjointe ou toi-même, est-ce que tu partages ça? Moi, ça, je veux dire, on a déjà, disons, on partage des fantasmes foufous, là, mais je veux dire, mettons, un fantasme sur quelqu'un que je côtoie.
Oui.
Ben non.
J'oserais jamais le partager à mon conjoint et ma conjointe.
Tu fais juste créer des inquiétudes.
Mais oui, c'est ça, exact. Fait que ça, ce serait pas sain de partager.
Mais parfois, il y a une ligne qui est un petit peu plus touchée que la communication verbale, parce qu'il y a des gens qui vont exprimer leur désir, ils ont full fantasme envers quelqu'un, puis ils vont le manger des yeux, là, tu sais, l'autre personne. Ça. Puis j'ai rien dit. Mais tu le sens dans le regard appuyé, puis elle suit la personne dans l'autre pièce, puis à la limite, ça fait un petit peu de « oups, frottering », tu sais, un petit frottement sur le coin de la cafetière. Donc, ça, c'est-tu l'infidélité, ça?
Frottering!
Ben, enfin, c'est ouvrir une porte, là, puis presque.
Ben, ça, c'est de l'infidélité. Tout, l'infidélité. C'est quoi l'infidélité? Pour moi, l'infidélité, c'est tout ce que mon conjoint, ma conjointe, n'oserait pas faire devant moi.
Oui.
Sachant que ça me ferait de la peine. Et pour moi, c'est une forme d'infidélité. Fait que ça peut être beaucoup de choses. Pour d'autres, un French, c'est pas être infidèle.
C'est ça.
Faut passer à l'acte sexuellement.
Il y en a même que un acte sexuel oral, ce n'est pas de l'infidélité.
Exact. Non, mais c'est vrai, ça varie énormément selon les couples.
Comme il y a des gens qui vont mettre le condom lors des rapports sexuels, mais ils vont aller full open sur ce qui est de fellation puis cunnilingus directement à la bouche.
Tout ça. On en a parlé. Mais oui, on en a parlé justement la semaine dernière. Des ITSS et tout ça. Ouais. Les gens comprennent pas là que il y a des muqueuses dans la gorge aussi. Donc, si tu mets pas de condom pour l'oral, pourquoi t'en mets, tu sais, mis à part pour la contraception?
À la découverte des muqueuses avec Mélanie.
Ben, si c'est pour te protéger des ITSS, et
oui,
là,
c'est ça.
Échec, là, si tu fais du sexe oral.
Mais je pense que les gens, une fois qu'ils sont dans l'état de désir, ils prennent des décisions non pas sur ce qu'ils avaient réfléchi ou ce qui leur semble logique, mais ils prennent des décisions sur s'ils se sentent bien ou pas dans l'action. Puis ça, c'est typique, là. C'est que le désir sexuel, l'alcool, puis les deux mixés ensemble, c'est encore pire. Ça fait comme empêcher de fonctionner un petit frein là, qu'on a et dans le lobe frontal, juste en arrière des yeux, dans le milieu, on appelle ça le cortex frontal,
oui,
dans la zone ventromédian. Donc là, il y a une petite zone qui projette à l'intérieur du cerveau pour freiner la charge émotionnelle. Bien, elle, quand on est en état de désir, là, ce frein-là, il ne fonctionne plus bien, voire peu du tout.
Un peu comme les ados.
Ben oui, ben c'est ça, c'est que ça prend beaucoup de temps à se développer.
Jusqu'à 25 ans, je pense. Hein?
Exact. Puis il y a des gens là, que ça, qui on l'a testé là, chez des jeunes enfants, puis ça tend à prédire l'impulsivité ou la retenue à l'âge adulte également, avec le test de la guimauve. C'est quoi?
C'est quoi
non.
Ça?
C'est que on met, mettons, des enfants de 4 à 6 ans devant une guimauve ou un biscuit là, sur l'heure du dîner, puis on leur dit « Je vais te donner un biscuit, mais je vais sortir de la pièce. » Puis si t'as pas mangé le biscuit quand je suis revenu, je te donne deux biscuits.
Ah, oh, oui.
Puis là, c'est filmé avec une vitre.
Oui,
puis là, la personne, elle sort de... Puis sur YouTube, il y a plein d'extraits, là.
Oui.
Là, l'expérimentateur sort de la pièce. Puis là, on voit s'il y en a qui prennent le biscuit, qui le sentent. Il y en a qui cassent juste un petit morceau, qui le mangent. Puis il y en a une grande majorité, par contre, vers entre 4 et 6 ans, il y a à peu près 60% qui mangent le premier biscuit direct. Let's go. Mais ceux qui attendent et qui disent, il n'y en a pas de problème, moi, je veux deux biscuits. Bon, ben eux, là, ça a été réétudié à l'âge adulte une fois qu'ils sont rendus à 30 ans, 40 ans. Puis c'est associé avec une meilleure gestion de la santé mentale générale, une meilleure capacité de performance au test de scolarité globale. C'est associé avec une meilleure capacité de savoir faire preuve de discernement. Donc déjà vers 4, 5 ans, 6 ans, on voit le style de capacité de retenue de l'impulsivité va prédire beaucoup de succès en société plus tard.
Mais ils sont où les guimauves là-dedans?
Ben, c'est la tentation.
Okay.
Si j'ai dit le biscuit ou la guimauve,
ouais,
mais
ouais,
ça,
c'est ça.
On se une guimauve dans, entre deux biscuits.
Ah oui, c'est ça. Les meilleurs.
Et voilà.
Ouais. Donc, puis quelque chose d'intéressant qui est ressorti durant la sexploratrice et le psy lors de la soirée de période des questions, quelqu'un disait une personne infidèle constamment devrait pas être en couple ouvert. C'est une question qui est venue. Mm-hmm. Puis moi, ma réponse était non. Puis ça, les gens pourront le confirmer.
Non, ça.
C'est pas parce qu'une personne est infidèle qu'elle est prête à être en couple ouvert. Et il y a des gens qui sont infidèles par, ben c'est ça, par impulsion. Puis après, ça, ils s'en veulent.
Exact.
D'autres qui c'est chronique et juste le danger, ça les excite. Le danger de se faire prendre, le risque,
oui,
ça les excite. Donc ils vont le faire. Le mensonge, ils ont que problème à être dans le mensonge, et c'est pas nécessairement des gens qui seraient prêts à être en couple ouvert et dire « Hey, moi, je vais aller ailleurs et ma conjointe peut aussi. »
Ça, c'est savoir gérer des règles. C'est pas l'impulsivité, là. Il y a toutes sortes de configurations de règles possibles. On peut mettre des règles ouvertes, des règles semi-ouvertes, des règles... Mais si c'est convenu, OK, là, c'est, ça va créer de la sécurité.
Oui.
Et si c'est pas respecté...
Ça peut être très sain,
point de porte, si... Il n'y a pas de règles. Et regardez un enfant, qu'est-ce qui se passe quand on y enlève toutes les règles, il peut faire ce qu'il veut. Ça devient un genre d'enfant roi qui va être très... il va trouver ça très difficile, la socialisation avec les autres.
Absolument. On a notre fidèle auditeur, Jonathan Brassard, qui parle de l'infidélité, de l'opportunité.
Oui, ben
c'est ça. C'est un peu
ça
l'impulsion.
Épisodique, moi.
Épisodique.
Ouais, c'est comme si ça adonne comme ça. Hein, c'était pas prévu, mais le cocktail des événements fait en sorte que... Hein, il y a beaucoup de gens dans cette catégorie-là qui vont éprouver des remords après coup.
Oui, parce que c'est pas quelque chose qui se présente souvent nécessairement.
C'est ça. C'est pas comme l'infidèle chronique.
C'est arrivé à presque tout le monde, au moins une fois, là, d'avoir une petite envie, mais de...
Mais parle pour toi.
Non, mais tu sais, puis c'est pas évident, tu sais, je veux dire... Tu sais, en tout cas, c'est vraiment de travailler sur soi, puis de oui, selon nos valeurs à chacun, dans le fond. Parce qu'il y en a qui se disent, « Hey, c'est sûr, ça se saura pas, là, fait que let's go. »
Ouais, t'sais? C'est ça.
Des puis gens, après, ils sont capables de passer
voyagent,
à autre chose.
Des gens qui...
Oui!
Oui. Il y a des mythes aussi autour de ça. Quand on regarde là, les classements des gens qui font le plus grand nombre d'infidélités selon des sondages, puis là, les sondages, c'est pas toujours super viable, mais ça serait les gens qui travaillent dans les parties de bureau de banque, les avocats, ça serait les plus à risque.
Les infirmiers, les infirmières?
Ben, ça, j'avais pas vu qu'ils étaient dans le top de la liste.
Pour quelle raison ce serait les plus à risque?
Ben, moi, mon hypothèse psychologique, ça serait qu'ils travaillent dans des milieux très rigides, très logiques, sous contrôle, sous surveillance. Puis plus que tu es sous contrôle, plus que ça va exploser quand tu désinhibes. C'est un petit peu une espèce de microcosme qui répète le fonctionnement de la société. Tu sais, la société, elle, elle s'accapare le droit de violence. C'est la civilisation, le gouvernement qui est le seul légitime à appliquer la violence. Parce que si tu fais mal à quelqu'un ici, là, tu vas te faire arrêter. Tu n'as pas le droit de faire mal aux autres. Donc, c'est la société qui s'accapare ça. Mais le fait de brimer les gens sur le fait de pouvoir faire mal aux autres, là, c'est comme une pression qui écrase les individus. Là. Puis cette pression-là crée de l'angoisse intérieure. Puis pour équilibrer les choses sur le plan psychologique, bien, le gouvernement met en place des festivals, des fêtes. Puis là, wouhou, on évacue notre fou grâce à ça. Bien, je pense que c'est comme la répétition de ça dans un microcosme d'environnement très, très, très structuré, très protocolaire. T'es envoyé après ça dans un environnement lousse, puis wow, ça fait comme exploser. Il y a beaucoup de bulles dans la bouteille de champagne.
C'est une théorie vraiment intéressante.
Vraiment.
C'est,
toujours des théories intéressantes avec Dr. Simard.
Ben, je l'appuie aussi sur plusieurs observations de plusieurs clients associés à ce genre de clientèle-là, mais il y a une fausse croyance que j'aimerais te partager. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les pilotes d'avion et les hôtesses de l'air, ça couche beaucoup ensemble.
Ouais.
Mais selon les recherches sur le sujet,
non,
c'est une fausse croyance. C'est vraiment deux genres d'activités très différentes que même pas beaucoup de croisements entre les individus.
Ah ouais.
Oui.
Pourtant, ils débarquent dans... Ben non, ben parfois, oui.
Parfois, ils débarquent même pas en même
temps. En même temps, ben non, effectivement.
Ils se croisent. Il y a juste la chef de cabine qui croise les pilotes. Il y a toutes sortes de fausses croyances associées à ça.
Okay.
Mais ça anime l'imaginaire, ça. Hein? Ils sont beaux, sont en uniforme.
Oui, puis on a souvent l'impression qu'ils dorment au même hôtel, à proximité l'un de l'autre.
Voilà. On a un couple, en fait, qui nous a écrit ce soir,
d'accord,
qui nous a écrit la semaine dernière, qui nous demandait. Nous sommes un couple Je suis une personne narcissique et ma conjointe aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation? Et moi, de leur répondre, écoutez, on reçoit Dr Simard lundi, donc si vous avez envie de participer, vous pourriez nous appeler ou nous texter.
Un très bon sujet.
Oui, c'est ça. Donc, on embarque dans ce sujet-là ou on le garde pour notre... Oui,
président. Punch, on pourrait dire, sur le sujet. Comment moi, j'aborderais ça en thérapie.
Puis éventuellement, on va les avoir.
Moi, je dirais que c'est la troisième meilleure configuration conjugale. Troisième meilleure. La première configuration la plus stable, on va dire, satisfaisante, moi, j'appelle ça la symétrie sécure. C'est deux personnes avec un attachement sécure qui sont capables d'être disponibles pour l'autre, là, dans le fond, qui ne sont pas marquées par un trouble.
Ça, c'est la meilleure des relations,
ouais,
selon moi.
Ouais. La deuxième forme de configuration, c'est on appelle ça une asymétrie fonctionnelle. C'est-à-dire, il y en a un qui mène, puis il y en a un qui suit. Puis là, ils sont d'accord là-dessus. C'est asymétrique, c'est sous tension, mais ils sont d'accord.
Ça, c'est les styles d'attachement désorganisés, ça?
Non. Ça, on pourrait appeler ça... On pourrait dire que, mettons, le style qui mène ou qui est expressif a tendance à être associé parfois avec certaines traits narcissiques.
OK.
Donc mettons, une personne qui souffrirait de narcissisme avec une personne qui souffrirait de dépendance. Mais ils sont d'accord, mettons, pour la dynamique ensemble.
OK.
Chacun dans leur force, chacun dans leurs limites. Ils font pas d'ingérence sur... Ils se compétitionnent pas l'un l'autre. On appelle ça une asymétrie fonctionnelle. Puis la troisième forme, la meilleure, puis c'est là que ça me fait penser à ça, c'est des gens qui auraient une souffrance de type narcissique, de manière générale, pas tout le temps, c'est associé avec un attachement qui tend à éviter l'intimité. Parce que là, on va rentrer peut-être dans une autre émission, dans la définition correcte là, de c'est quoi le narcissisme?
Oui.
Puis comment on peut le différencier ou l'associer avec les attachements évitants ou pas? Quel est l'impact sur le couple? Mais... Gardons à l'esprit que c'est pas une mauvaise configuration conjugale. Ça peut être très bien.
Ah oui, deux narcissiques ensemble, ah oui, ça peut être très bien.
Mais ça va dépendre comment ils partagent le pouvoir. Est-ce que c'est rigide, flexible? Est-ce qu'il y en a un qui domine l'autre ou les deux peuvent alterner dans le rôle de dominant, de dominé? Est-ce qu'il y a de la résistance beaucoup ou de la résilience dans leur couple? Est-ce qu'ils utilisent la sexualité comme un objet de réparation de leur tension intérieure ou pour aller à la rencontre de l'autre personne? Pas partout pareil. Là. Parce que chez les couples qui sont narcissiques, selon la recherche, ils vont avoir tendance, en situation de stress, à mettre une distance sur le lien d'attachement. Puis là, vu qu'ils sont détachés de l'autre personne, bien, c'est là qu'ils peuvent utiliser la sexualité de manière générale, un peu comme un instrument ou une compensation. Fait que c'est pas vraiment comme
leur méthode de reconnexion.
C'est une méthode de réduction du stress en réalité.
OK.
Parce qu'ils sont à distance. Mmh. Ils évitent l'intimité. Donc, ça peut être associé avec une sexualité insatisfaisante. Mais encore une fois, là, on parle de personnes qui pourraient, de manière générale, tomber dans leur stress. Parce qu'une personne qui souffre de narcissisme n'est pas tout le temps en train d'être narcissique. Là. Un peu comme n'importe quelle souffrance, il y a des déclencheurs qui les accentuent. Puis ça, c'en est un point majeur. Hein. Si le couple qui nous parle, et c'est un couple qui fonctionne bien ensemble, c'est peut-être parce qu'ils connaissent leurs déclencheurs respectifs puis ils savent se respecter jusqu'à un certain point.
Oui.
Puis j'imagine aussi qu'on fait tous preuve de narcissisme à un certain point et, à contrario, il y a des narcissiques pathologiques.
Ben c'est ça. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a un trouble de la personnalité narcissique.
Il y en a qui sont diagnostiqués, d'autres non.
C'est ça. Puis ça a passé dans la culture populaire pas mal, hein, ce terme-là, aujourd'hui.
Oui.
Ouais.
Mais il y a un meilleur terme pour décrire l'amour de soi qui n'est pas l'amour de soi grandiose, je me moi fermé. Là, ça serait la philotia. C'est un terme grec. Avez-vous déjà entendu parler de ça, la philotia?
Jamais.
Bon, ben, c'est un terme qui veut dire un amour de soi qui est sain, qui est inspiré par des mentors et des modèles qui, tout d'un coup, moi, je vais être la personne responsable de m'aimer.
Docteur Simard, j'ai découvert, là, on a déjà bossé, on va terminer l'émission bientôt, promis, mais j'ai découvert le livre « Tout se joue avant 8 heures ». J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu connais ce livre-là?
Non, ça me dit rien.
OK, je viens de découvrir ça. Chers auditeurs, je vous en parle demain. C'est un coup de cœur pour moi qui rejoint un peu le livre « La magie », mais qui est beaucoup plus dans le concret.
Non, non.
Non, non, c'est ça, mais on parle pas de loi d'attraction ni rien. C'est vraiment juste une question de se mettre en action avant 8 heures
le matin.
Puis vraiment, là,
okay, c'est... OK, je suis pas d'accord.
Ah!
Parce que selon la recherche scientifique sur les types de sommeil,
on appelle ça les chronotypes.
Il y a des gens qui ont un chronotype tardif naturel. Ça veut dire que leur horloge biologique est réglée sur un peu plus décalé de vivre.
Puis
de
le cycle circadien aussi.
C'est
hein,
ça que je parle.
Ouais, OK.
Fait que il n'y a pas une sorte d'heure qui est la meilleure que d'autres. Fait que tu sais, le magical morning, le réveil magique, tout ça.
C'est ça? Bon. C'est le magical morning!
Bon, ben c'est de la bullshit.
Hein? Il allait me détruire!
Mais, mais par contre, c'est intéressant. Si vous, vous êtes un type lefto, ah ah, là, c'est plus de la bullshit, là, c'est très intéressant. Mais c'est juste qu'on ne peut pas le généraliser à tout le monde.
Faut faire un épisode là-dessus, Doc!
Ah, mais je pourrais te conseiller quelqu'un à inviter de meilleur que moi là-dessus.
Ouais?
Ouais, ouais.
Ah, oh, moi, je veux m'obstiner avec toi.
OK, vraiment.
J'adore bon, m'obstiner ben, avec toi! Merci beaucoup, docteur Simard, psychologue. Donc, on se revoit la semaine prochaine, j'espère bien.
C'est dans l'agenda.
C'est dans l'agenda. On a également un couple qui vit une relation à distance qui sera des nôtres à la fin novembre et qui nous a écrit, donc Justin et Mélodie. On a très hâte de vous recevoir. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à tous les participants sur le live TikTok qui sont encore très nombreux ce soir. Je n'ai pu tout lire. Je ne sais pas si mon collègue a ça là, avec lui, mais bref, on vous remercie d'avoir été là encore une fois. Et c'est TZ Capital National pour ceux et celles qui le demandent. TZ Capital National est le service de raccompagnement. Dr Simard et ses programmes sont disponibles sur hockeyensemble.com.
Oui.
Et merci Max.
Merci à toi.
Merci beaucoup, c'était une belle soirée. Merci chers auditeurs. Et n'oubliez pas que demain est la journée des vœux de Noël. Donc c'est la journée pour vous procurer des publicités à rabais exceptionnel sur les ondes de choix 98h Radio X. Vous avez une entreprise dont vous aimeriez faire parler. Eh bien, c'est le temps d'avoir accès à des promotions incroyables. Donc, vérifiez demain l'ensemble de nos réseaux sociaux ou le 88-670-9098 pour vous procurer un vœu de Noël. Merci beaucoup, tout le monde, et à demain.
La sexploratrice avec Mel Trudel.